Bonjour à tous et bienvenue au ce sixième cours qui terminera le programme de cette année sur les techniques de diagnostic des batteries. Et aujourd'hui, dans ce dernier cours, je vais un peu quitter la fibre optique et le support des capteurs pour m'intéresser plus longuement à l'émission acoustique et la détection. Alors le menu de ce cours va être le suivant. Je vais tout d'abord vous donner quelques rappels, généralités sur l'effet acoustique, le principe et le vaste domaine d'application. Par la suite, je vais introduire des capteurs acoustiques pour un suivi analytique avec des applications concrètes aux batteries, et on verra, je dirais, une très grande diversité d'exemples. Je vous montrerai la différence entre le mode passif et le mode actif dans ces mesures, avec notamment un paramètre qui va être important, qui va être le temps de volt du signal acoustique, et comment, à partir de ça, on peut suivre l'état de charge et de santé des batteries. Enfin, je conclurai sur cette détection acoustique et comme ce dernier cours, j'en profiterai également pour conclure, grâce à trop transparent, sur finalement une vue personnelle du diagnostic dans le domaine des batteries. Alors pour commencer, eh bien, l'émission acoustique ou le phénomène d'émission acoustique, eh bien, c'est l'émission spontanée d'ondes ultrasonores par un matériau sous l'effet d'une sollicitation. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, sous l'effet d'une sollicitation, il va y avoir un relargage d'énergie via l'émission d'ondes élastiques, et cela à travers les matériaux. Alors, un domaine que vous connaissez très bien dans lequel vous avez des ondes acoustiques, eh bien, c'est le domaine directement des ondes sismiques, qui sont dans ce cas des ondes acoustiques, ou qui sont des mouvements vibrationnels à l'intérieur de la matière. Et je dirais que ces ondes, comme vous pouvez voir ici, sont similaires aux rides qui se forment à la surface d'un étang ou d'un lac lorsque vous lancez un galet. Il y a un point, naissance, je dirais, de ces rides qui ensuite vont se propager et s'estomper au fur et à mesure comme s'écarter du point initial. Et c'est rien d'autre que ce que va être l'émission acoustique. La différence, c'est que dans ce cas, bien, on va avoir un déplacement en deux dimensions comparé d'un déplacement en trois dimensions, bien sûr, dans le cas des ondes sismiques qui se propagent au travers de la Terre. Alors, comme on avait vu la dernière fois, l'effet plasmonique n'est pas nouveau, était bien connu déjà de l'humanité, il en est de la même sorte de, tout simplement, l'émission acoustique. D'ailleurs, nos ancêtres, bien avant Jésus-Christ, connaissaient l'effet ou l'onde acoustique, du moins ses conséquences, puisqu'ils avaient observé le son ou le crépitement des poteries lorsqu'ils refroidissaient. Et tout cela était dû à un simple effet de maclage. Et à partir de cela, eh bien, ils pouvaient savoir si une poterie avait la qualité nécessaire et autre. Ensuite, l'exemple le plus connu aux années du 14e et 15e siècle, ça a été ce qu'on appelle ou ce qu'on réfère le cri du fer, qui dans ce cas est associé à la migration des parois de bloc. Parois de bloc étant des domaines magnétiques. Et lorsque vous admettez un champ magnétique, eh bien, vous allez aimanter complètement votre aimant. Et dans ce cas, vous déplacez ces parois de bloc et il y a un relargage d'énergie et certaines fois des ondes ultrasonores. Un autre domaine ou un autre métal qui est bien connu aussi pour ces ondes ultrasonores, eh bien, c'est ce qui est connu sous le nom le cri ou les pleurs de l'étain qui sont associés à la déformation d'une lame d'étain bien cristallisée. Et d'ailleurs, cet effet a été découvert, reconnu ou expliqué par Shklovsky, qui a, bien sûr, vous connaissez la méthode de croissance, qui a observé ce phénomène de bâclage, qui est une déformation plastique de la matière lorsqu'on va cristalliser les matériaux. Et enfin, un domaine où les ondes acoustiques sont bien connues, c'est le domaine de la marine, avec le sonar pour contrôler les objets, les sous-marins, et ainsi de suite. Et ce domaine de l'acoustique, je dirais, est un domaine très vaste, qui touche beaucoup de sciences, les sciences de la Terre et l'atmosphère, donc je l'ai mentionné ici avec le sismique, le géophysique, les sciences humaines et sociales, dans l'architecture, télécommunications, mais également les sciences de la vie et de la santé, et notamment le domaine du biomédical et de la médecine. Et là, j'ai tenu à mettre ces exemples qui vont vous parler, où là, je dirais, l'acoustique est utilisée, je dirais, à deux finalités. La première est la détection. Lorsque vous faites un écho, de l'échographie, du Doppler, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'un capteur acoustique qui va vous permettre de localiser des défauts, des défaillances, des tumeurs. Et ensuite, beaucoup, également, on utilise fréquemment les ondes acoustiques pour des traitements, avec notamment ici cette technique qui est tout simplement, dans ce cas, eh bien, c'est des ondes localisées de forte énergie. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup de domaines sont touchés. Et enfin, les domaines de sciences et l'ingénieur, bâtiments, transport et nucléaire. Vous savez, il faut savoir que tous les réacteurs nucléaires eh bien, sont suivis par des capteurs acoustiques pour savoir le vieillissement des réacteurs nucléaires. D'où cette émission acoustique, eh bien, on va l'étudier aujourd'hui dans le cas des matériaux et on va s'intéresser à quelles sont finalement les sources de cette émission acoustique. Eh bien, les caractéristiques elles vont dépendre des caractéristiques intrinsèques du matériau, c'est-à-dire sa structure cristallographique, les transformations de phase s'il y a lieu, la taille des grains, l'homogénéité, la densité et l'élasticité. Et lorsque je parle d'élasticité, je parle de module de Young, ainsi de suite. Enfin, il va y avoir les conditions de sollicitation, c'est-à-dire comment un matériau va être utilisé. On va parler de vitesse de charge, fréquence de cyclage, état de contrainte, température, et ainsi de suite. Tout ça va affecter, je dirais, le comportement ou l'écho acoustique d'un matériau. Alors, dans ce domaine, ou dans le domaine des matériaux, bien, la science a été développée, je dirais, par ces deux pionniers, que sont Joseph Kaiser, qui a étudié, je dirais, fortement et en profondeur les phénomènes de fissures dans les métaux et ainsi que les déformations. Et ensuite, Bob Schofield, qui a été un des pionniers également et a organisé la première conférence sur l'acoustique en 1954 aux États-Unis. D'où l'acoustique, je dirais, s'il y a un domaine où elle a dominé au niveau des matériaux, définitivement, c'est le domaine des bétons ou des ciments. Parce que ces bétons et ces ciments, eh bien, sont, je dirais, des matières vivantes. Elles vont évoluer au cours du temps, dépendant de l'environnement. Et ce qui peut se passer, c'est qu'en raison des agressions chimiques, voire thermiques, eh bien, on peut provoquer des pathologies qui vont tout simplement affecter les propriétés physiques de ces bétons, c'est-à-dire des lamination, des ruptures, des associations liant granulats, voire même, je dirais, la fracture des granulats. Donc, par conséquent, eh bien, on peut, dans ce cas, à l'aide de capteurs acoustiques, connaître ce vieillissement. Alors, ça va se passer en trois étapes. On peut détecter la génération d'une fracture en regardant tout d'abord la propagation des ondes, et bien sûr, il faudra, dans ce cas, un détecteur acoustique, comme indiqué ici. Et ensuite, on peut avoir également, en même temps, une propagation de l'onde. Alors, la question qui se pose, c'est finalement, quelles sont ces ondes acoustiques. Et je voudrais ici introduire deux types d'ondes acoustiques qui vont avoir une importance, je dirais, assez capitale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ondes transverses au cisaillement, qu'on va appeler des ondes ultrasonores de type S ou longitudinales. Ce qu'il y a d'important ici, c'est que ces ondes vont permettre de transporter l'énergie par une onde élastique, mais il n'y a en rien un transport de matière. Vous allez d'abord, dans ce cas, que ce soit dans le cas du cisaillement ou de la compression, eh bien, vous avez tout simplement une vibration des atomes autour de leur position d'équilibre. Et bien sûr, lorsqu'on va faire des mesures d'acoustique, eh bien, ce qui est important, c'est de savoir que l'atténuation de ces différentes ondes va différer si elles sont, je dirais, de cisaillement ou en compression. Et enfin, comme vous pouvez voir ici, si maintenant je veux connaître le point de rupture, si je peux dire, dans un béton, eh bien, il va falloir tout simplement que je mette plusieurs capteurs. Et ensuite, en connaissant la célérité de l'onde, eh bien, je pourrai déterminer où est finalement la défaillance ou la fissure, ou la microfissuration. Donc voilà, si vous voulez, quelques principes. Ensuite, bien sûr, dans le cas des ondes acoustiques, il y a tout un domaine de fréquences sur lequel on peut s'intéresser, dépendant des différents effets. Vous avez les ondes sismiques, dans le domaine de fréquences de l'Hertz, microsismiques, le domaine de mesure où on va travailler sur les ondes ultrasonores, on va s'intéresser à cela aujourd'hui, et hypersonores, sonores, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, le type d'ondes que l'on va regarder. Alors bien sûr, ce qui est primordial avec cela, ça va être la vitesse de propagation de ces ondes acoustiques, qui sont des ondes élastiques, dans différents milieux. Ces différents milieux, eh bien, il va y avoir le milieu du solide, le milieu du liquide et le milieu du gaz. Je vous mets ici les équations pour les deux premiers, dans laquelle, vous voyez, la célérité directement de la propagation de cette onde, eh bien, elle va dépendre dans le cas du solide, du modulo U, c'est-à-dire l'élasticité du matériau et sa densité, alors que dans le cas du liquide, eh bien, ça va dépendre de la compression et également de la densité. Et on aura une même relation dans le cas des gaz. Et juste pour annoncer, c'est que dans une batterie, vous savez très bien qu'il va y avoir du solide, du liquide, et s'il y a des réactions parasites, il y a des gaz. Donc, par conséquent, on pourra avoir accès, vous allez voir, ce n'est pas évident, à ces différents paramètres. Alors, où est-ce qu'on utilise ces ondes acoustiques? Bon, dans le cas du laboratoire, il y a un exemple, je dirais, qui est très simple. C'est le cas, tout simplement, de la microbalance à quartz, où dans ce cas, finalement, on a un cristal piézoélectrique dont la vibration va être affectée par la masse, je dirais, du film qu'on va pousser, qu'on va faire croître à la surface de ce quartz. Et cela, eh bien, c'est donné par l'équation de Sauerwald qui est indiquée ici. Et tout cela est très utilisé pour le suivi des dépôts chimiques, physiques, mais également électrochimiques. Mais il y a également, dans ce cas, eh bien, l'émission d'une onde acoustique qui va se propager dans le milieu environnant, c'est-à-dire dans le milieu liquide, et cela est donné par cette relation, vous avez la longueur de pénétration qui est proportionnelle à la densité et également à la viscosité du liquide. Et par exemple, dans le cas de l'eau, eh bien, on pourra prospecter jusqu'à 189 nanomètres, alors que dans le cas du carbonate de propylène, dans les milieux non aqueux, on pourra prospecter jusqu'à 271 nanomètres. Et cela aussi a une relevance très importante dans le domaine des batteries, puisqu'on va pouvoir suivre ce qui se passe aux interfaces au niveau des réactions parasites et ainsi de suite. Donc, vous ayant décrit un peu ces différents principes, voyons comment ce genre de mesure va s'effectuer. Le schéma expérimental d'une mesure d'onde acoustique est indiqué ici. Vous avez, dans ce cas, vous pouvez voir, si vous voulez, une batterie dans ce cas, on va y mettre un capteur piézoélectrique qui va réceptionner, je dirais, les ondes créées par les fissures et qui sont des ondes mécaniques ou des ondes élastiques. Et ensuite, vous avez un système d'amplificateur pour obtenir le signal qu'on va exploiter et à partir duquel on va essayer d'obtenir des informations sur les phénomènes se passant à l'intérieur d'un système. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut bien sûr un bon couplage entre votre capteur piézo et votre batterie dans ce cas-là. Et généralement, ce qu'on va utiliser, on va utiliser de la graisse de silicone ou même un bain d'huile à silicone. Donc, je vous montrerai quelques manips qui ont été faites dans un tel milieu. Mais ça, c'est relativement primordial pour avoir, je dirais, un bon couplage et un bon accord entre ces différentes parties. D'où, si on fait cette mesure, on va regarder finalement toutes les informations qu'on peut avoir dans ce signal, de nouveau, qui est l'écho de la batterie. Eh bien, on va avoir ce genre, je dirais, de spectre dans lequel il va y avoir des valeurs qui vont être relativement importantes pour la suite. Bon, on a dans ce cas une traîne d'onde dont on va déterminer l'énergie, qu'on va dans ce cas qualifier, ou l'unité, on parlera d'atojoules. Pour vous donner une idée, c'est des énergies relativement faibles. Un atojoule est autour de 10 puissance moins 18 joules. Ensuite, on parlera, et ça c'est très important, indiqué en vert ici, le seuil critique. Seuil critique, c'est-à-dire c'est tout simplement les différents événements qu'on prendra en considération seulement. C'est-à-dire tous les événements au-dessus du seuil critique seront pris en considération. L'amplitude, comme indiqué ici. La duration dans ce cas, c'est le temps entre le premier et le dernier dépassement du seuil critique. Vous voyez, le seuil critique et voilà le temps de duration. Et enfin, vous verrez ce chiffre souvent tracé dans les graphes que je vous montrerai par la suite, ce qu'on appelle le nombre de coups. Et le nombre de coups est le nombre de passages du signal au-dessus de ce seuil critique. Et ces informations que l'on va utiliser dans un premier temps, dans lequel je vais tout simplement regarder à l'écho de la batterie au niveau du signal optique. Par la suite, on introduira d'autres paramètres qui sont des temps de vol du signal acoustique. D'où, à partir de ça, on va tout simplement regarder ce qu'est une batterie et qu'est-ce qu'on peut tirer comme information. Alors, dans un accumulateur, une batterie, une cellule, vous avez la configuration indiquée ici, dans laquelle ces matériaux d'électrode sont des matériaux vivants qui vont je dirais, gonfler, se retrécir, être en contrainte ou en compression durant le cyclage, pouvant générer des micro-fissures. Et par conséquent, eh bien, dans ce cas, on va pouvoir contrôler ou capturer les ondes relarguées lors de ces différentes fractures, comme indiqué ici. Ensuite, eh bien, il y a également des réactions secondaires, voire des réactions secondaires, c'est-à-dire que tous les accumulateurs contiennent des électrolytes. La question est de savoir si est-ce qu'il y a assez d'électrolytes, est-ce que vous avez des parties de la batterie qui n'ont pas assez d'électrolytes. Donc là aussi, eh bien, avec la propagation des ondes, on va réussir à savoir, je vous montrerai des exemples à ce sujet, si une batterie est parfaitement immergée dans l'électrolyte ou non, ou que se passe-t-il en fonction du cyclage, s'il y a des réactions de parasites, de décomposition, qui vont générer tout simplement des gaz et assécher la batterie. C'est tous ces aspects qu'on va essayer de voir par la suite. Alors maintenant, eh bien, dans le cas de cette détection acoustique, il va y avoir deux méthodes. La première, qui a été utilisée dans les batteries déjà depuis plus de 20 ou 25 ans, c'est ce que j'appellerais la méthode passive, non destructive, dans laquelle, dans ce cas, eh bien, on va tout simplement coller un capteur à la batterie et on va faire cycler et on va voir ce qui se passe lors du cyclage, quelles sont les micro-fissures qui peuvent avoir donné naissance. Et la deuxième méthode, qui est beaucoup plus répandue aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la active non destructive acoustic measurement, où dans ce cas, eh bien, je vais tout simplement envoyer un signal, c'est-à-dire je vais avoir ma sonde, qui finalement est un haut-parleur, je vais envoyer un signal et je vais regarder exactement l'écho de ce signal, comment il a été modifié à la sortie de la batterie. Et vous allez voir, c'est des méthodes qui se poursuivent fortement aujourd'hui, sur lesquelles on peut avoir des informations intéressantes, malgré que la simulation de ces ondes traversant au travers de l'accumulateur est relativement complexe. D'où voilà. D'où, là, je vous ai directement sorti les généralités sur cet aspect d'effet acoustique dans différents domaines, et on va maintenant le regarder au niveau des batteries. Alors, la première expérience qui a été faite, à ma connaissance, dans ce domaine, ce sont des travaux de Ozoku, qui datent déjà maintenant de plus de 20 ans, dans lequel, ici, eh bien, il a étudié des cellules lithium MnO2. Vous avez la cellule, décrite ici, le capteur acoustique qui est en rouge, et vous avez dans ce cas l'électrode de travail qui est MnO2. Et là, eh bien, il va tout simplement décharger son accumulateur et regarder quelle est la réponse acoustique. C'est-à-dire, il va regarder l'onde acoustique et déterminer le nombre de coups, vous voyez ici, en fonction du temps, et vous avez le cyclage ici. Et cette expérience a été faite en augmentant continuellement la capacité de décharge de la batterie. Et vous voyez que jusqu'à 100 mAh par gramme, eh bien, on a tout simplement pas grande activité au niveau des événements acoustiques. Et ensuite, au fur et à mesure que vous augmentez la capacité, vous voyez que le nombre de coups monte et s'accroît considérablement. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous arrêtez directement le courant à ce niveau, eh bien, vous mesurez encore le nombre de coups et vous voyez qu'il y a encore une activité, si je peux dire, de fissure après, tout simplement, l'équilibre, enfin, après la coupure de courant. Alors cela, on peut le faire eh bien, en fonction du cyclage. Et ici, vous voyez tout simplement la vitesse des événements qui est en train de s'accélérer lorsque, à la fin de la décharge. Mais intéressant, dès que vous recommencez la charge suivante, ces événements s'estompent. Et ce qu'on peut voir, eh bien, c'est qu'au fur et à mesure que vous avez du cyclage, on voit que finalement, ces événements également s'estompent. Ça veut dire qu'on a fait du broyage électrochimique lors de la première décharge. On continue ce broyage pour quelques cycles et ensuite, eh bien, le matériau, si je peux dire, est formé. Il n'y a plus ce broyage électrochimique. Donc voilà une expérience, une des premières expériences qui avait été faite sur ce système lithium MnO2. Ensuite, des expériences un peu plus sophistiquées ont été faites sur des systèmes graphite lithium, où dans ce cas, eh bien, il s'agit d'une pile bouton dans laquelle on va mettre, dans ce cas, deux capteurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer de l'un à l'autre, on met deux capteurs, un sur l'électrode négative, dans ce cas, c'est une cellule graphite-lithium, et l'autre sur l'électrode positive, si je peux dire graphite dans ce cas. Et on va tout simplement mesurer, une fois de plus, la réponse acoustique en fonction de l'état de charge. Et vous avez ici la décharge, que vous reconnaissez très bien, du graphite, avec les différents paliers qui correspondent au fameux staging du graphite. Et vous avez ici la réponse des capteurs acoustiques, en rouge, celui qui est posé sur l'électrode graphite, et en bleu, sur l'électrode lithium. L'électrode lithium, vous voyez très peu de réponses, parce qu'on a un matériau très ductile qui va très peu changer, tout simplement, en fonction du cyclage. En revanche, vous regardez ici, dans le cas du graphite, et on s'aperçoit qu'il y a déjà une activité aux alentours de 0,7-0,8 volts, et ensuite, eh bien, vous voyez qu'ici, il y a, si je peux dire, vous pouvez voir, des paliers. Eh bien, tout ça, ça correspond à ce que l'on connaît fort bien dans le cas du graphite, c'est la formation de la SEI et également l'intercalation du lithium qui se fait selon différents paliers comme indiqué ici. Alors dans ce papier, c'est intéressant car les chercheurs ont poussé, je dirais, cette corrélation encore plus loin et ont essayé de se servir de ces tests d'ondes acoustiques pour classifier, si je peux dire, les différentes sortes de carbone. Et vous avez ici différentes sortes de carbone et on s'aperçoit qu'il y a effectivement une corrélation entre le potentiel, si je peux dire, d'intercalation, vous prenez la réactivité de surface du carbone, avec directement le signal acoustique. Et enfin, on peut également faire en même temps des mesures d'impédance, et si on fait des mesures d'impédance, eh bien sur ces mêmes carbones, on peut mesurer la résistance à interface en fonction du signal acoustique, et on voit là aussi qu'il y a une relation. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir des relations entre ces différents paramètres, ces différentes observables que l'on a sur les matériaux d'électrode et avec le signal acoustique. Mais là aussi, vous voyez, toutes ces corrélations ne font que tout simplement justifier ou confirmer ce qu'on connaissait très bien. Et ce sera certainement un des problèmes que je mentionnerai à la fin. Ensuite, je dirais l'évolution normale, c'est qu'ayant fait le graphite, et maintenant on va voir ce qui se passe dans le cas du silicium, avec des expériences qui sont identiques, ou dans ce cas, eh bien, vous savez que l'électrode de silicium est bien connue pour avoir des gonflements exacerbés, et bien on va mesurer une fois de plus les réponses acoustiques. Et là, on va les faire, vous voyez, le temps, alors temps en microsecondes, mais c'est tout simplement le temps qui est tout simplement qui s'écoule entre finalement l'événement et le temps de détection, et on va faire ça eh bien, avec des seuils de détection différents. Et si on fait les seuils de détection, vous voyez qu'à 50 décibels, je suis relativement élevé, je vais prendre finalement que la crête de ma réponse, et au fur et à mesure que je vais abaisser mon seuil, je vais avoir accès à davantage d'événements acoustiques. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre maintenant la transformée de Fourier de ce signal, et on voit maintenant l'évolution en fréquence, et on s'aperçoit qu'on a des phénomènes qui vont apparaître à diverses fréquences. Ok ? Et là, patientez, je vous montrerai finalement que ces phénomènes à diverses fréquences eh bien, correspondent à des aspects bien particuliers de réactions chimiques ou d'événements qui ont lieu à l'intérieur de l'accumulateur. Alors, on peut maintenant continuer là-dessus et faire tout simplement des mesures en fonction du cyclage. Vous avez ici des images de microscopie à balayage dans laquelle vous voyez qu'au fur et à mesure que je vais cycler, eh bien, je vais augmenter le nombre de fissures dans le matériau. Et ici, vous avez tout simplement les courbes électrochimiques du silicium avec en rouge eh bien, la réponse acoustique. Et vous voyez que le nombre de coups cumulés eh bien, augmente en fonction du cyclage. Et on peut, dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, eh bien, regarder ce qui se passe aux points qui sont marqués par ces cercles verts. Et dans ce cas, eh bien, on peut faire ce genre de tracés dans lequel je vais tracer la capacité en fonction du temps et le potentiel en fonction du temps. Et sur ces courbes, je vais tracer les contours de signaux acoustiques. Et vous voyez finalement que lors de la décharge, eh bien, j'ai une activité acoustique lorsque je suis à des capacités aux alentours de 700 à 800 mAh par gramme, avec dans ce cas des temps relativement courts au début de la charge. Ensuite, vous voyez où apparaît, je dirais, les événements acoustiques lors de la charge. Et on peut, dans ce cas, je dirais, cycler et voir ce qui se passe. Et on voit finalement qu'au fur et à mesure que vous cyclez votre silicium, eh bien, comme vous le savez, ce n'est pas des matériaux qui sont très performants en cyclage, eh bien, on perd ou on confirme le fait que il y a une efficacité au cyclage qui est relativement faible au fur et à mesure, en fonction du temps et en fonction du nombre de cycles qu'on applique. Alors ensuite, on peut, dans ce cas, essayer de faire des corrélations supplémentaires. Tout cela, dans le cas du silicium, vient effectivement du gonflement, vient également du gonflement associé au matériau qui va intercaler du lithium, mais également à une OSEI qui se forme. D'où on peut, dans ce cas, suivre en parallèle, eh bien, faire des mesures parallèles ou couplées d'acoustique et de diffraction des rayons X. Et c'est ce que les chercheurs ont fait, où je montre ici, finalement, l'évolution en fonction du cyclage. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est-à-dire que, bon, dans ce cas, eh bien, on va utiliser une référence qui va être le cuivre, et à partir de cette référence, on va pouvoir savoir, finalement, le déplacement du cuivre, là, dans sa cellule. Ça veut dire qu'on va pouvoir, dans ce cas, eh bien, connaître le gonflement de l'électrode lors du cyclage. Et ensuite, on peut regarder au pic du silicium, et à partir de la longueur, de la largeur à mi-hauteur, on peut, dans ce cas, déterminer le taux de cristallisation, ainsi que, dans ce cas, également le taux de contrainte. D'où, on peut ensuite tracer ou essayer de mettre des correspondances entre, tout simplement, le potentiel et le signal acoustique, ça c'est la courbe que j'ai montrée auparavant, et maintenant, eh bien, je suis en train de simplement de montrer quel va être, dans ce cas, eh bien, le fait d'insérer du lithium dans le silicium va augmenter le volume, d'où on va voir, dans ce cas, eh bien, modification du milieu avec le nombre de lithium, d'où modification du temps de propagation de l'onde, ce que l'on voit très bien en haut, et ensuite on s'aperçoit eh bien, qu'à chaque charge et à chaque décharge, vous avez dans le cas de l'insertion de lithium, vous avez une traction, une compression, et on peut corréler directement, c'est pas lié au niveau des ondes acoustiques, avec tout simplement ce qui se passe au niveau de la modification du milieu, du volume, dans votre électrode de silicium. D'où on peut faire ça sur le cas des électrodes négatives. La même chose a été appliquée dans le cas des électrodes positives. Et vous avez ici, tout simplement, des expériences qui ont été faites sur le lithium CO2 graphite, où dans ce cas, eh bien, on fait 5 cycles et on va observer ce qui se passe. Eh bien, on voit une fois de plus que l'électrode, eh bien, il va y avoir, lors de l'insertion du lithium, un broyage électrochimique. Sur l'électrode graphite, vous voyez qu'elle est fortement modifiée. Eh bien, on va tout simplement maintenant suivre la capacité en fonction eh bien, du signal acoustique. Et tout cela en fonction du nombre de cycles. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en bleu, eh bien, la capacité de cette cellule décroît, je dirais, relativement fortement, avec en rouge, qui est l'activité acoustique. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, il y a une forte croissance, et lorsque la capacité décroît, il y a toujours une croissance du signal acoustique en rouge. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on a des problèmes de dégradation liés à des fractures et autres. Alors c'est là qu'on peut regarder ce signal et interpréter ce signal. Et si vous regardez le signal acoustique, eh bien, essayez de le séparer en deux, on s'aperçoit que, vous voyez, il y a deux domaines de fréquence avec, je dirais, deux types d'intensité. Dans ce cas, on a un signal qui apparaît entre 121 et 180 kHz, alors que si maintenant je diminue mon seuil, eh bien, j'aperçois un signal qui va être, je dirais, à plus basse fréquence. Et je peux, dans ce cas, eh bien, construire un diagramme dans lequel je peux tracer tout simplement l'amplitude et la duration de ces différents événements, et j'ai deux domaines. Un domaine dans lequel j'ai des amplitudes importantes avec des temps de duration qui vont être courts, et pour anticiper, eh bien, ce domaine va être lié à la fracturation. Et j'ai ici des domaines dans lesquels, dans ce cas, eh bien, j'ai des amplitudes relativement faibles, mais des durations relativement importantes. Eh bien, on peut découpler, je dirais, ces deux phénomènes. Et dans ce cas, vous avez dans ce cas le tout cumulé en noir, le type 2 que j'avais mentionné et le type 1 que j'ai mentionné. Eh bien, dans ce cas, on peut rendre compte ou faire la corrélation, c'est que le signal qui est, je dirais, de faible amplitude mais de haute duration est lié à, dans ce cas, la décomposition de l'électrolyte avec les différents composés, formation d'alkylcarbonate et ainsi de suite, alors que le type 1 indiquée ici, est tout simplement due à la fracturation qu'il y a lors du cyclage. Donc voilà, si vous voulez, le type d'information que l'on peut obtenir. Okay. Mais là aussi, bon, vous allez me dire, toutes ces informations, c'est bien, on peut les obtenir, mais c'est du classique et on connaissait tout ça. Et enfin, une dernière expérience dans ce cas, je dirais, de détection acoustique sur un matériau d'électrode, c'est un dernier papier qui est sorti, je crois, il y a un an ou deux ans, qui provient du groupe allemand de Janek, où dans ce cas, ils ont étudié tout simplement des demi-cellules lithium-nickel-lithium. Et dans ce cas, vous avez toujours les mêmes paramètres, hein, c'est-à-dire que lorsque vous regardez l'acoustique, vous allez avoir toujours les mêmes plots, le potentiel, avec dans ce cas le nombre de coups cumulés en bleu et la vitesse, je dirais, de coups en vert. Vous voyez que dans ce cas, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand même, il y a, la plupart des événements se passent lors du premier cycle. Et vous voyez qu'ensuite, ça s'estompe en partant du deuxième, troisième, quatrième, cinquième cycle. On peut dans ce cas bien analyser ce qui se passe au premier cycle. Et vous voyez qu'en ce cas, on peut tout simplement déterminer deux domaines, j'appellerai le low voltage et le high voltage, où, dans ce cas, les événements sont différents et leur vitesse indiquée en vert est différente. D'où, on peut traiter ce signal en fonction de la fréquence. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe trois domaines de fréquence, que j'appellerai AE1, AE2 et AE3. Et on peut tracer l'évolution de ces trois domaines de fréquence des coups cumulés durant ces trois domaines en rouge, noir et vert. Eh bien, dans ce cas, on arrive directement, et c'est le but du papier, de montrer qu'on peut attribuer eh bien, le premier domaine à basse fréquence à la formation de la SEI. On peut attribuer le deuxième en rouge à la formation de gaz, c'est-à-dire de réaction ayant lieu à l'interface, l'or ou à décomposition d'électrolytes. Et enfin, le troisième à la fissuration. D'où, c'est pour vous donner une idée de ce qui peut se faire dans ce domaine. D'où cela conclut, je dirais, la première partie dans laquelle eh bien, j'ai un accumulateur et je vais tout simplement analyser les ondes associées à la fissuration, à la formation de SEI ou d'électrolytes. Donc maintenant, je vais passer au deuxième mode de détection dans lequel eh bien, je vais envoyer un signal dans l'accumulateur, okay, et je vais tout simplement étudier l'écho de ce signal en dehors de cet accumulateur et voir quelles sont les informations que je peux obtenir. Et là, je dirais, cette partie va être, comprendre deux sections. La première section, vous allez voir une section très descriptive et qui va vous donner réellement ce que l'on peut obtenir de ce genre de mesures. Et ensuite, une présentation nettement plus complexe où là, on va aller dans les paramètres réels. La première partie concerne les travaux récents de Jeb Dan, dans lequel il a étudié tout simplement quelle va être la mouillabilité ou comment on peut s'assurer d'avoir une excellente mouillabilité des batteries lithium-ion. Alors, l'expérience réalisée est relativement simple. On utilise dans ce cas une onde ultrasonore qui est fournie par cet émetteur d'onde qui va focaliser cette onde sur, dans ce cas, une cellule poche. Et on va récupérer cette onde par un récepteur, comme indiqué ici. Et on va voir finalement ce qui se passe lorsque on va cycler ou on va tout simplement remplir notre accumulateur. Alors les batteries qui sont utilisées ici sont indiquées. Ce sont des batteries qui sont fournies par une boîte chinoise dans laquelle vous avez la partie active. Et ici, vous avez à côté un sachet qui est plein de gaz pour évacuation, etc. Et là, vous avez tout simplement l'image, si je peux dire, ultrasonore, ou la transmission ultrasonore de votre, tout simplement, accumulateur. Alors, si on regarde ça de plus près, on s'aperçoit que si maintenant, eh bien, je prends directement ma transmission acoustique à deux points de la batterie, c'est-à-dire un point où j'ai mon composé et un point, finalement, où je n'ai que du gaz, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, l'amplitude du signal acoustique ou le temps de volt est déjà différent. Donc l'amplitude est différente, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, tout simplement, l'onde ne va pas traverser directement le même milieu. Et ce qui est évident ici, puisqu'on traverse, dans ce cas, de l'air, alors que là, on traverse tout simplement la batterie. Et on va s'intéresser à l'amplitude de pic à pic. Et cette valeur de crête, eh bien, je vais la transformer en couleur, avec bleu et rouge, qui vont représenter finalement le domaine 0 V et 1,4 V, de façon, dans ce cas, eh bien, avoir une image, je dirais la transmission ultrasonique, à l'intérieur de cet accumulateur. Et on va maintenant regarder les informations que l'on peut avoir de ça. Alors, la première information, eh bien, quelle va être l'importance du fait d'avoir du liquide ou non dans votre accumulateur ? Pour répondre à cette question, eh bien, on va tout simplement considérer une cellule dans laquelle je vais y mettre tout simplement un feuillet d'électrode seulement. Et si je mets un feuillet d'électrode seulement, une fois de plus, je vais directement prendre les deux signaux au pointé indiqué ici. Vous voyez tout simplement que lorsque je suis dans une électrode sèche en bleu, eh bien, l'absorption acoustique est maximale, je n'ai plus de signal. Et la raison pour laquelle vous êtes dans ce cas directement couleur bleue avec l'échelle de couleur indiquée ici. Par contre, si je suis directement à l'extérieur de ce feuillet, eh bien, dans ce cas, j'ai un pic-pic de 0,96 et je peux dans ce cas passer mon signal. Tout cela pour vous dire, et pour que vous rappeliez par la suite, eh bien, que cette absorption acoustique eh bien, va dépendre des milieux. Pour la bonne et simple raison que si, dans ce cas, voilà mes ultrasons envoyés, voilà le signal écho, eh bien, dans le cas où je n'ai seulement que du solide, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais avoir peu de transmission, il faut une percolation entre les différentes particules. Par contre, si maintenant j'ai des matériaux solides plus du liquide, eh bien, les deux milieux vont, dans ce cas, transmettre, et c'est la raison pour laquelle eh bien, je vais avoir une amplitude pic-pic qui sera beaucoup plus importante. Eh bien, sur la base de ces principes, on peut tout simplement, maintenant, voir les vitesses d'absorption ou de remplissage de cellules proches-cellules. Mais c'est ce qui était indiqué ici, où vous avez dans ce cas, eh bien, on va tout simplement prendre la même cellule avec différents temps d'imprégnation en mettant 0,4, 0,5, 0,6, ainsi de suite. Bon, l'histoire, pour être simple, vous voyez tout simplement que si je prends 0,9 ml, eh bien, que 4 heures ou 24 heures, j'obtiens à peu près les mêmes résultats. Par contre, si je suis dans un domaine qui est un peu déprivé en électrolytes, aux alentours de 0,6, vous voyez que dans ce cas, eh bien, automatiquement, vous avez une meilleure imprégnation après 24 heures plutôt que 4 heures. D'où, il n'y a pas, grande surprise, c'est juste, tout simplement, un proof de concept de la technique. On peut faire la même chose maintenant en regardant ou en fixant la quantité d'électrolytes injectée dans une cellule poche pour qu'elle s'imprègne et voir ce qui se passe, l'évolution après un temps X, comme indiqué ici. Et là, une fois de plus, eh bien, pour faire l'histoire courte, on s'aperçoit qu'il n'est pas une surprise non plus, mais ça montre une fois de plus le proof of concept, c'est que, tout simplement, après 34 heures ou 23 heures ou 34 heures, c'est le temps nécessaire pour vraiment imbiber correctement un accumulateur. D'où voilà les informations que l'on peut avoir sur lesquelles on a distingué la partie solide et la partie liquide. D'où maintenant la question, c'est est-ce qu'on peut également distinguer le gaz ? Eh bien, effectivement, oui, on peut le faire, car dans ce cas, eh bien, les ondes de transmission vont, dans ce cas, dépendre, je dirais, des impédances acoustiques, qui ne sont rien d'autre que le produit du volume par la densité du milieu que l'on va traverser, et qui sont données par ces relations indiquées ici, dans lesquelles le transmission rate T est fonction de ces impédances acoustiques dans les deux milieux, avec la réflexion. C'est-à-dire qu'à l'interface, eh bien, vous allez avoir tout simplement des ondes, une partie d'onde qui va être transmise, une partie d'onde qui va être réfléchie. Et si on fait cela, eh bien, on peut s'apercevoir que l'impédance du gaz est seulement de 0,04 mRi, comparé à 50 pour le liquide. D'où il va y avoir une large différence entre un milieu liquide et un milieu tout simplement gazeux. C'est-à-dire que les ultrasons peuvent perdre, je dirais, plus de 99% à l'interface de ces milieux. Et cette méthode, eh bien, on va tout simplement l'utiliser maintenant pour savoir ce qui se passe dans les accumulateurs en fonction du régime de cyclage et des conditions de cyclage. Le premier exemple indiqué ici consiste à prendre ces batteries NMC XN32 avec le graphite artificiel, où, dans un premier temps, je vais imprégner la batterie. Vous imprégnez la batterie, et automatiquement, chaque fois que vous avez des cellules lithium-ion, vous faites une étape de formation. Cette étape de formation va créer des gaz. Vous apercevez ici qu'il y a, je dirais, que la couleur verte devient moins intense une fois l'étape de formation. Après, eh bien, on va tout simplement dégazer, c'est-à-dire tirer sous vide, et dans ce cas, eh bien, on revient à l'état initial, et on a tout simplement une répartition, je dirais, uniforme, si je peux dire, de l'électrolyte. Et ensuite, on peut étudier ça en fonction du cyclage. Et dans ce cas, eh bien, ils ont fait autour de 3000 cycles. Ils s'aperçoivent qu'après 3000 cycles, finalement, il n'y a aucun changement de contraste entre après le premier cycle, après le dégazage, et les 3000 cycles. Ce qui veut dire qu'en ce cas, eh bien, on a, je dirais, un comportement idéal sans vieillissement. Alors, comme on l'a déjà vu dans les cours, eh bien, si on veut accélérer, je dirais, la dégradation des batteries, il suffit de changer soit les potentiels de coupure, soit directement la température. Et c'est ce qui a été fait dans cette expérience, où dans ce cas, eh bien, on est passé de 25 degrés à 55 degrés, avec des potentiels de coupure qui vont de 4,1, 4,2, 4,3. Et on va, dans ce cas, comme auparavant, regarder ce qui se passe au niveau de l'accumulateur. Et vous voyez, dans ce cas, regardez la cellule vierge. Et si je prends la cellule après 2500 cycles, vous voyez qu'en ce cas, j'ai toute une zone dans laquelle j'ai une absorption acoustique énorme, zone bleue. Ça veut dire qu'en ce cas, bien, j'ai soit un assèchement de mon électrode, soit du gaz qui a été généré. Pour répondre à cette question, il suffit que je prenne cette électrode, eh bien, je vais tout simplement la dégazer, et je m'aperçois finalement que la raison principale est tout simplement un assèchement de l'électrode. Et ça, eh bien, on peut le faire sur différentes cellules, différents cycles, et c'est ce qui a été fait, les mêmes manips, dans le cas où je vais à 4,2 volts, et dans le cas où je vais à 4,3 volts. Vous voyez qu'on peut utiliser, je dirais, cette technique pour vraiment comprendre ce qui se passe lors du cyclage et quelle est finalement la source de défaillance. Et enfin, le dernier exemple que je voudrais vous montrer à ce sujet, eh bien, concerne une fois de plus maintenant le cyclage de deux cellules dans lesquelles on va cycler des cellules en bleu avec 40 degrés C avec des profondeurs de décharge de 100% comparées en rouge avec des profondeurs de décharge de 40%. L'une va être assez sur 3 et l'autre assez sur 10. Le but de C sur 3 et C sur 10, c'est de faire en sorte que ces cellules eh bien, aient été cyclées pour la même quantité de temps et la même quantité de courant. Et on va, une fois de plus, regarder ce qui se passe. Et là aussi, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Lorsque je regarde cette cellule qui a été avec un depth of discharge de 100%, eh bien, je m'aperçois que là aussi, j'ai un assèchement fort de l'électrode. Et notez ici que ce n'est plus du graphite artificiel, mais du graphite naturel. On peut s'amuser, dans ce cas, à tracer, je dirais, les changements de volume de l'électrode. On peut également regarder les changements d'épaisseur, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que dans ce cas, eh bien, effectivement, après le cyclage, eh bien, ce carbone naturel gonfle beaucoup plus que le carbone artificiel. Et c'est la raison pour laquelle on a tout simplement cette déviation. D'où, but de tout ça, eh bien, là aussi, on peut utiliser dans ce cas bien particulier, eh bien, cette détection acoustique pour connaître le vieillissement des batteries. Alors peut-être, le point que je n'ai pas mentionné, qui est beaucoup plus important d'un point de vue appliqué, c'est que toutes ces mesures, pour les faire, rappelez-vous, il vous faut un couplage parfait entre le capteur et la batterie. C'est la raison pour laquelle toutes ces manips ont été faites dans un bain d'huile minérale. D'où l'aspect pratique pose des questions. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire à ce sujet. Alors maintenant, la dernière partie que je voudrais vous montrer, qui est certainement la plus complexe, mais qui peut apporter des résultats intéressants, est maintenant où on va réellement étudier ce qui se passe entre, je dirais, ce signal émis et ce signal, je dirais, recueilli, et voir tout ce qui se passe ici. Et rappelez-vous que cette onde acoustique, eh bien, sa propagation va dépendre du milieu que vous allez voir, c'est-à-dire qu'il va chaque fois que vous avez un feuillet de PVDF, whatever, elle va changer. Et de plus, il va y avoir une transmission, une réfraction à chaque interface. Ça veut dire qu'une partie du signal sera transmise, une partie du signal sera réfléchie, et ainsi de suite. D'où, ici, vous avez un cas relativement simple, mais si vous avez maintenant des piles, des patch cells qui a 15 feuillets, ou des cellules de 1050 où il y a 24 feuillets, vous allez voir la complexité de cette analyse. Alors, pour vous montrer cette complexité, eh bien, voilà directement ce qui se passe. Voilà. Vous voyez, j'envoie mon onde, finalement j'ai un haut-parleur qui m'envoie directement mes ondes, et ces ondes, eh bien, elles vont directement se propager le long de cet accumulateur. Et vous voyez qu'il y a à chaque part des réflexions et des transmissions. Par exemple, ici, vous avez la réflexion à ces différentes interfaces, et ensuite, vous avez la transmission, l'onde qui arrive tout simplement à la fin. Et ça, eh bien, c'est ce que vous allez mesurer dans ces expériences d'acoustique à travers différentes cellules. D'où, on peut avoir ces genres de plots, et ensuite, eh bien, on va tout simplement, à partir de cela, qui sont les temps de volts du signal acoustique, eh bien, on va les tracer dans ces plots de contours bidimensionnels. Vous voyez ici, là aussi, les différentes couleurs qui sont synonymes d'intensité ou d'amplitude du signal. Et on va, dans ce cas, eh bien, pour chaque mesure, vous allez avoir une pulse de 50 nanosecondes, vous allez analyser le temps de vol, c'est-à-dire le temps entre le temps où vous avez envoyé le signal et le temps que vous voulez le récupérer, c'est-à-dire pendant 20 microsecondes, et on va faire ça le long de la charge de la batterie toutes les 30 secondes. Bon, on fait l'intégration de l'intensité du signal réfléchi et transmis que l'on trace indiqué ici. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on a une corrélation, si je peux dire, entre la variation du signal acoustique, somme du signal réfléchi et transmis, en fonction de l'état de charge et l'état de décharge. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, durant l'état de décharge, eh bien, on s'aperçoit que l'amplitude du signal, eh bien, dans ce cas, diminue. Ça veut dire que dans ce cas, l'absorption augmente et vice-versa dans le cas d'une charge, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut obtenir de ces. Et vous voyez quand même la complexité de ces genres de mesures. Et ça, bien, ce n'est que dans le cadre, je dirais, relativement simple d'une cellule poche dans laquelle j'ai 5 ou 6 feuillets. Maintenant, je peux faire ça dans des cellules de 18-50 où, vous voyez, la complexité des résultats, et vous voyez qu'ici, maintenant, les corrélations entre les charges et les décharges, regardez la somme des pics, je dirais, vert et rouge, eh bien, elle est quand même beaucoup moins évidente. D'où là aussi, c'est ce que l'on peut faire. Et enfin, on peut, je dirais, exploiter ou essayer d'exploiter ces résultats encore plus, où là, je vous montre finalement les courbes sur premier cycle et second cycle. Et vous voyez qu'en ce cas, on voit des évolutions et on voit finalement qu'il y a, je dirais, des augmentations du signal transmis en fin de charge et en fin de charge qui sont simplement dues dans ce cas à des capacités réduites et à des problèmes de diffusion différentes. D'où, là aussi, je dirais, c'est des genres d'expériences qui sont relativement complexes et dont l'interprétation et la simulation est très compliquée et certainement que l'apport du machine learning pourra être utile dans ce domaine. Mais plutôt que d'aller dans le machine learning, je voudrais vous mentionner quand même deux manips qui ont été faits relativement récemment et qui sont beaucoup plus prometteuses, excusez-moi, en termes d'exploitation de résultats. Alors ces deux manips, la première, eh bien, est indiquée ici, où l'on va tout simplement regarder en ce cas eh bien, l'état de charge de batterie lithium-ion à l'aide des ultrasons. Vous avez, je dirais, le schéma expérimental est exactement le même que celui que je vous ai mentionné précédemment, avec une fois de plus eh bien, un émetteur et un récepteur. Et là, eh bien, ce qui est intéressant de ce papier, je vous ai mentionné quelle était l'importance de la fréquence. Eh bien, ces chercheurs ont étudié l'évolution du signal acoustique en fonction de la fréquence. Vous voyez ici, à 100 kHz, 150 kHz et 200 kHz. Et 200 kHz, eh bien, il se trouve finalement que c'est à peu près l'épaisseur des électrodes. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe qu'on a, je dirais, des trains d'ondes qui sont beaucoup mieux définis à 200 kHz. Eh bien, c'est cette fréquence que les chercheurs ont utilisée pour faire leurs analyses. D'où on obtient ces trains d'ondes bien définis, on peut en faire la transformée de Fourier, dans lequel on a deux signaux. Et vous voyez qu'en charge et en décharge, on a un signal bleu ici, eh bien, qui ne varie pas, et ce sera mon signal de référence qui est associé, je dirais, au couplage capteur-cellule, et en rouge va être le signal que je vais exploiter pour savoir ce qui se passe. Et vous voyez que lorsque je passe de la charge à la décharge, eh bien, j'ai un temps de retard considérable entre ces deux signaux. Eh bien, maintenant, on va pouvoir regarder l'accumulateur et travailler juste sur ton domaine de fréquence et voir ce que l'on observe. Qu'est-ce qu'on observe ? Si je trace l'amplitude du signal, vous avez, ce qui n'est pas une surprise, alors je trace l'amplitude du signal à Vous voyez, avec le temps de vol ou le temps de retard, que je vous ai mentionné. Ici, eh bien, je mets tout simplement l'état de charge, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on va tout simplement regarder avec 20% de capacité de charge, 40%, 60%, 80%. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure eh bien, que j'augmente ma capacité, eh bien, j'ai, dans ce cas, eh bien, un déplacement continuel de l'amplitude de ce signal qui représente réellement mon aspect, je dirais, intrinsèque de ma réaction chimique ou des matériaux d'interrelation, alors que mon référence reste constante. Et vous voyez, vous avez la même chose en amplitude signal et également en temps de retard. Ça veut dire, dans ce cas, si mon temps de retard change, dans ce cas, ce temps de retard, il diminue, ça veut dire que s'il diminue, l'onde va se propager beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que je vais avoir changé, tout simplement, la densité de mon milieu. Alors, on peut encore s'amuser à exploiter ça plus clairement. Dans ce cas, bon, finalement, c'est des tracés qui sont un peu identiques à ce que je mentionnais auparavant, dans lequel, vous voyez, la constante du pic de référence, qui est bien normale, et voilà, la variation de l'amplitude du pic, soit en amplitude, soit en temps de retard. Et on peut, bien sûr, tracer ensuite eh bien, la hauteur du signal, l'amplitude, en fonction de l'état de charge. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut avoir une relation linéaire, ou presque, entre l'état de charge et l'amplitude du signal. D'où là, c'est, je dirais, une évidence où on peut quand même, grâce à cette détection acoustique, eh bien, déterminer l'état de charge des batteries. D'où voilà, si vous voulez, ce qui peut se passer à ce niveau. Et enfin, le dernier exemple, où là, on va aller encore plus loin, on va passer de l'état de charge et on va aller à l'état de santé de la batterie. Et ça, eh bien, c'est une dernière manip que j'ai trouvée dans la littérature, qui est assez intéressante, où les chercheurs vont changer la configuration ou le positionnement des capteurs acoustiques. C'est-à-dire, vous avez une cellule proche-cell, toujours pareil, mais dans ce cas, eh bien, ils vont utiliser tout simplement le feuillet de surface comme guide d'onde. Et ce qu'ils font, c'est qu'on met directement dans ce cas deux capteurs, émetteurs et capteurs récepteurs ici. Vous avez finalement une configuration de ce qui se passe. Et dans ce cas, eh bien, on va tester ce qui se passe dans cet accumulateur avec une batterie lithium-ion, une fois de plus, avec l'ion, etc. Et dans ce cas, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On va avoir deux états, je dirais, ou deux variations à l'état de charge et à l'état de charge. Mais regardez, vous avez directement là, le signal activation, vous voyez, et le signal écho. C'est-à-dire qu'en ce cas, on est en train de faire de l'écho. Et on s'aperçoit que dépendant de l'état de charge de la batterie, vous avez que dans le cas où il y a le signal à 100% de l'état chargé, eh bien, c'est cette enveloppe, alors qu'à 30%, c'est en rouge. D'où on a, dans ce cas, une modification de détection. Alors ensuite, on peut exploiter cela encore davantage, et on peut tracer finalement le temps de vol en charge et en décharge, et on obtient ces genres de courbes, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, une fois de plus, le temps de vol, dans ce cas, décroît. Eh bien, si le temps de vol décroît, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, l'onde acoustique va se propager plus rapidement, et ainsi de suite, et le vise en décharge. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut exploiter davantage ces courbes, et on va le faire comme on le fait souvent en électrochimie, c'est qu'on va passer aux courbes dérivées. Et si je passe aux courbes dérivées, eh bien là, pour ceux qui travaillent sur ces systèmes, ils ont déjà compris quel était le résultat. C'est que je prends les courbes dérivées d'une batterie lithium-CO2 carbone, eh bien, j'obtiens directement ces deux pics. Voilà. Et si je prends la dérivée de mon temps de vol ou la dérivée de mon amplitude, eh bien, j'obtiens également les deux mêmes pics. Ça veut dire qu'en ce cas, j'ai une vraie correspondance entre eh bien, l'électrochimie et également la partie acoustique. Et ensuite, pour se convaincre des résultats, les chercheurs sont allés encore plus loin, ils ont essayé de simuler les résultats et simuler finalement le temps de vol d'une onde au travers de cet empilement. Et vous voyez ici la partie simulée et la partie expérimentale qui, est, je dirais, présente un certain accord. Donc voilà, si vous voulez, où est-ce qu'on peut en est dans ces mesures. Mais de nouveau, la partie simulée, les calculs et la complexité est, je dirais, considérable. Et enfin, pour arriver à ce que je vous ai annoncé, qui est l'état de santé, eh bien, c'est que dans ce cas, eh bien, on peut directement faire ces mesures en fonction du nombre de cycles. Vous voyez ici, jusqu'à 70 cycles, Là aussi, on est en train de parler de cellules qui sont des cellules réelles, commerciales, 3,7 ampères, et le temps de cyclage. Et à partir de là, on peut tout simplement, la capacité restante, en fonction du nombre de cycles, déduite directement de ces mesures acoustiques. Et on peut, dans ce cas, corréler la capacité restante avec l'amplitude du signal ou le temps de vol. Okay. D'où ça montre que si finalement on peut pousser ces techniques et arriver à déterminer l'état de charge et l'état de santé des batteries lithium-ion. Donc voilà aujourd'hui, si vous voulez, ce qui se fait au niveau acoustique, et ça je crois que c'est les derniers travaux les plus récents que j'ai pu repérer dans la littérature dans ce domaine. Donc voilà comment je voudrais conclure, si je peux dire, ce cours sur les ondes acoustiques, où je vais montrer une fois de plus que la technique est intéressante. Elle nous permet d'avoir accès à certaines observables, mais malheureusement, trop souvent, ce n'est rien d'autre qu'une confirmation de ce qu'on sait déjà. D'où, maintenant, je voudrais terminer par quelques transparentes conclusions sur le diagnostic au niveau des batteries et qu'est-ce que vous pourrez, ou j'espère, vous pourrez retenir de ce cours et l'importance de cela. Alors, je commencerai par, tout simplement, faire une distinction entre les différents composants de la batterie, car ça va être des méthodes diagnostiques totalement différentes. C'est-à-dire ce qu'on peut faire au niveau du matériau, de la composite d'électrode, de la cellule complète, du pack et, je dirais, du système. Eh bien, je dirais qu'à ce jour, ce qu'on a pu voir dans ce cours, c'est qu'on est très bien muni par des mesures électrochimiques pour comprendre réellement ce qui se passe au niveau des composites, au niveau également des cellules, et même voir des 1850. On a des techniques électrochimiques relativement puissantes, et c'était le but du deuxième cours. On a des techniques operando, sur lesquelles je ne suis pas tellement attardé, mais qui sont là aussi très puissantes, avec des techniques de tomographie, des techniques de détection, transmission, ainsi de transmission, ainsi de suite. Mais tout ça nous permet d'obtenir de très bonnes informations à ce niveau. Par contre, là où la difficulté se présente, c'est que maintenant, lorsqu'on veut passer finalement des matériaux, ensuite à la cellule complète, la surface, l'intérieur de la cellule, le pack et le BMS. C'est là où les difficultés, existent. Et c'est pour ça que je voudrais mentionner les différentes techniques basées sur les fibres acoustiques qui nous permettent de connaître ce qui se passe à l'intérieur de l'accumulateur et avoir de l'imagerie finalement, de la température, des réactions chimiques, voire des échanges thermiques à l'intérieur de cet accumulateur. D'où ça, c'est beau, mais la question, c'est que comment allons-nous passer de cette cellule au pack et au système? Là, il va y avoir, des problèmes de kinétique, c'est-à-dire comment vont faire les connexions, et il va y avoir aussi, ce que je n'ai pas mentionné à ce cours, mais c'est qu'on est en train de mettre des fibres optiques, on met des capteurs, ainsi de suite. Quelle va être finalement la durée de vie de ces capteurs? Il faut espérer qu'ils soient bien plus longs, tout simplement, que la vie de la batterie, et ainsi de suite. Donc, au jour d'aujourd'hui, oui, tout cela apporte des informations, utiles, mais il nous manque quand même de franchir ce pas, et à ce jour, je veux dire qu'on est encore, il y a beaucoup d'incertitudes, comment on va le franchir. Alors, on peut regarder, finalement, ce que l'on peut obtenir de tout ça. Effectivement, on est capable, à ce jour, et on aura davantage de paramètres dans le futur, d'avoir beaucoup d'observables, de paramètres physiques. Mais une fois de plus, comment allons-nous passer des façons simples, opaques et au système qu'est la voiture électrique? Alors, grand espoir, bien sûr, est basé sur toute cette quantité de données gigantesques que l'on fournit, ou grâce à l'intelligence artificielle, on pourra, dans ce cas, entraîner des modèles, des algorithmes pour mieux comprendre le BMS. Et c'est un peu le but des travaux aujourd'hui, de fournir ces valeurs, ces paramètres physiques, ces observables, pour améliorer de façon intelligente ce BMS. Et si on améliore ce BMS, définitivement, dans ce cas, on pourra augmenter la cycle de vie des batteries, on pourra résoudre les problèmes d'anomalie thermique, on pourra comprendre les puissances secrètes d'utilisation, et enfin, obtenir des performances en température et ajuster les systèmes de refroidissement correctement. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qu'il faut faire. Mais là, je dois dire qu'aujourd'hui, le domaine diagnostique est encore, soyons honnêtes, dans son état de balbutiement à l'échelle de la cellule. Comment avoir ces informations et surtout comment les transmettre? Alors, si je regarde finalement maintenant la vue personnelle, bien, je la séparerai en trois: les constats, les pistes de recherche et les conseils personnels. Les constats, eh bien, ce que la plupart, malheureusement, si je peux dire, des expériences que je vous ai montrées durant ces cours, eh bien, c'était chaque fois, on essaie directement de développer des capteurs pour avoir un observable. Mais chaque fois, cet observable, eh bien, on va le relier à ce qu'on connaît au niveau de l'accumulateur. C'est-à-dire que dans ce cas, il n'y a pas, comme en théorie, de prospective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire, on est en train d'observer. Et on a fait des corrélations, et ça manque. Et bien sûr, si on regarde la littérature, il y a beaucoup de techniques élégantes, mais qui sont loin de l'application système. Et là aussi, on est encore dans le syndrome, je dirais, de l'élégance en fonction de l'utilité. Au niveau des pistes de recherche, eh bien, je pense qu'il faut augmenter les différents paramètres que l'on a, mais ce n'est pas en mettant 50 capteurs et 50 fils partout, c'est tout simplement essayer de faire de l'intégration, de la multifonctionnalité sur des capteurs. Et ici, à titre d'exemple, je vous montre une fibre optique qui va contenir directement un FBG, donc vous savez ce que c'est, qui vous permet d'obtenir la température, la pression et les contraintes. Je vous mets dans ce cas un domaine d'onde évanescente qui va vous permettre d'avoir l'infrarouge, c'est-à-dire les concentrations d'espèces parasites. Vous avez dans ce cas un tilt FBG qui va vous permettre en ce cas d'obtenir les variations d'indice de réfraction et la plasmonique qui pourra vous déterminer les concentrations en lithium. Et finalement, ce qu'on voudrait faire, ce qui serait intéressant, c'est de construire finalement un laboratoire analytique sur la fibre. Et enfin, bien sûr, pour que tout ça ait unité, eh bien, je dirais, il faut coupler le diagnostic à l'auto-opération, car si on arrive à détecter des tumeurs, comme je l'ai mentionné aujourd'hui, avec tout ce qui est l'écho, le signal écho comme on fait en médecine avec l'échographie ou le Doppler, eh bien, il faut être capable d'apporter, je dirais, des solutions. D'où, voilà les pistes, les conseils. Eh bien, définitivement, il faut qu'on réfléchisse sérieusement le passage à celui au système avec de l'innovation au niveau de la connectique des capteurs pour l'intégration simplifiée. C'est-à-dire qu'il faut penser wireless, et là aussi, eh bien, est-ce qu'on peut faire de l'optique wireless? C'est encore une bonne question. Et enfin, on doit rechercher sur les capteurs, doit être intégré avec les souhaits du BMS, et là aussi, je dirais, c'est très important d'avoir une synergie entre ces deux secteurs de recherche en amont. Car on veut, en tant que scientifique, pour la beauté du geste, faire une imagerie en température de la batterie, mais il se peut que les gens qui veulent du BMS, il leur faut simplement trois températures à l'intérieur et, je dirais, près des collecteurs de courant. Donc voilà, si vous voulez, à peu près les différents conseils et comment je voudrais terminer ce cours. Donc avec ce, bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je veux dire, see you next year.